La belle ces ondes.
La belle ces ondes.
C'est sur Radio La.
Radio La.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans La Belle Saison de notre émission quotidienne qui tend l'oreille vers le pays de Dieulefit-Bourdeau et la vitalité débordante de ce territoire. Vous nous écoutez sur le 106.6 FM à Dieulefit évidemment et sur l'appli Radiola partout ailleurs. Nous sommes ensemble pour une petite heure, merci beaucoup d'être à l'écoute de nos belles ondes associatives. Aujourd'hui, histoire, devoir de mémoire et pacte d'amitié en Afrique de l'Est. On parle du Rwanda ce matin sur Radio La. Quel lien entre une petite commune de la Drôme provençale, Dieulefit, et un pays d'Afrique de l'Est de 13 millions d'habitants, le Rwanda, 10 000 km de distance, et pourtant une histoire commune existe et notre village occupe aujourd'hui une place à part dans les liens qu'entretiennent la France et ce pays, à travers notamment la figure d'un homme, Jean Carbonard, dieulefitois, qui fut l'un des premiers en France à alerter sur le risque d'un génocide dans ce pays, tiraillé alors par une guerre civile. Plus tard, c'est une association dieulefitoise qui a participé à la reconstruction du pays. C'est également un pacte d'amitié depuis 2010 qui relie Dieulefit et une région rwandaise, celle de Bicécéro. Une plaque en témoigne d'ailleurs à l'entrée du village. Et puis aujourd'hui, c'est un événement à l'initiative de la municipalité qui vient commémorer ces liens d'amitié, ce travail de mémoire pour faire la lumière sur ces événements tragiques de 1994, notamment historiquement. Un événement qui s'appelle Célébration de l'amitié franco-rwandaise qui se déroule ce week-end à Dieulefit, donc le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, avec des conférences, des invités de marque dont nous allons parler, notamment l'historien Vincent Duclair, l'ambassadeur du Rwanda en France et l'ambassadeur de France au Rwanda. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Christian Bussat, maire de Dieulefit, et Antoine Gros, donc petit-fils de Jean Carbonard, dont nous parlions un petit peu plus tôt. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, bon, on va parler de cet événement, de Jean Carbonard, votre grand-père Antoine, et puis des liens qu'entretiennent Dieulefit avec le Rwanda depuis 30 ans. Mais peut-être pour commencer, Christian Bussat, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée de cet événement dieulefitois autour du Rwanda?
Il se trouve que j'ai découvert en tant que maire les liens avec le Rwanda au fur et à mesure de mes premières années de mandat, et que j'ai été au mois d'octobre dernier, j'ai été faire un voyage à Kigali et au Rwanda, emmené par Anne-Marie Truc, qui était la présidente de l'association Inoreza Dieulefit, dont on va parler au cours de cet entretien. Et j'ai découvert un pays et des gens absolument magnifiques. Une histoire incroyable, une histoire d'une douleur folle, et un pays qui se reconstruit sur des bases tout à fait étonnantes. Donc je suis revenu avec une volonté de faire vivre ce pacte d'amitié entre cette région du Rwanda, le district de Karungi, et Dieulefit. Comment l'idée s'est montée, je crois que c'est Marguerite Carbonard, ta grand-mère, qui un jour m'a dit, mais tu sais, Vincent Duclair, cet historien dont on va parler aussi, viendrait bien à Dieulefit. Et donc j'ai saisi un petit peu la balle au bon et je l'ai invité. J'ai essayé de l'inviter au mois de mai, au mois d'avril pour le 29e anniversaire, la commémoration du génocide des Tutsis, et puis on n'a pas trouvé de date. Par contre, on est parti sur le principe de se retrouver à l'automne, et donc ça a lieu ce week-end.
Je disais Dieulefit, village important dans les liens qu'entretient la France avec le Rwanda. C'est un événement qui n'arrive pas par hasard. Ça fait 30 ans, et notamment que l'association dont vous parliez, alors j'ai peur de mal prononcer le nom, mais
Inoreza Dieulefit. Ça s'écrit Intore. Alors on dit assez facilement en franco-français Intore, mais c'est Inore.
C'est une association qui s'est créée rapidement après le génocide et enfin qui a œuvré depuis Diolfi, enfin qui a participé en tout cas à la reconstruction.
C'est ça. C'est une association qui a été créée autour de Jean Carbonard par des amis, par des connaissances et qui a. Je crois qu'elle a été créée aux alentours de 2008, peut-être, et qui s'est donnée comme tâche de reconstruire des liens avec cette région du Rwanda, notamment cette colline de Bisesero, qui a été le lieu d'un massacre particulièrement douloureux, où les soldats français sont passés, on pas réagi assez vite, et où on a laissé faire une tuerie absolument monstrueuse. Mmh. Donc voilà, donc cette association a construit une école là-bas, a construit un jardin d'enfants, a acheté des vaches pour les paysans qui étaient sans ressources, et a eu une action vraiment tout en douceur et très respectueuse de ce qu'est ce pays et de ce que tous ces gens ont vécu. Mmh.
Le début, des liens entre le Diolfi et le Rwanda, c'est cette figure de Jean Carbonard, Antoine Gros, donc votre grand-père, qui a été le premier... En fait, au retour d'une mission humanitaire dans ce pays, a alerté dès 1993 sur la possibilité d'un génocide. Donc, paroles qui se sont tragiquement révélées vraies quelques mois plus tard. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire ?
Oui, alors mon grand-père, en fait, il a travaillé pour le développement d'abord en Algérie de 62 à 74. Sur un programme de reboisement. Et puis ensuite, ils sont partis avec ma grand-mère Marguerite Carbonard, qui l'a beaucoup soutenue dans toutes ses actions. Ils sont partis au Sénégal, où ils ont rencontré Joséphine et Ezekias Rwabuyi, qui sont rwandais et à l'époque fuyaient déjà le Rwanda parce qu'il y avait déjà des persécutions contre les Tutsis. Donc c'est auprès de Joséphine Ezekias qu'il a été sensibilisé à cette question et qu'ensuite il a pris à bras le corps ce combat pour lutter contre les persécutions. Donc il est parti avec une mission d'enquête de la Fédération internationale des droits de l'homme sur le Rwanda au début des années 90. Et c'est là qu'il a découvert des charniers de massacres qui étaient déjà perpétués. Et qu'ensuite, à son retour en France en 93, il a tenté d'alerter l'opinion publique, notamment sur France 2, au journal de Bruno Mazur.
Je vous propose justement de profiter d'être à la radio pour écouter un extrait de cette interview. Donc c'était au journal de France 2 le 28 janvier de 1993.
Alors, ce que vous dites, c'est qu'à la différence de ce qui se passe actuellement dans l'ex-Yougoslavie, où on est un petit peu malheureusement spectateur, là, nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif. Nous pouvons agir sur l'événement.
Oui, c'est les deux choses qui m'ont frappé. D'abord, l'implication du pouvoir. Jusqu'à quel niveau nous sommes réservés pour le moment. Mais on est convaincus, tous les membres de la mission étaient convaincus que jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité, et nous étions 8 nationalités représentées dans notre commission. J'étais, disons, le représentant le plus inconfortable, parce que je mesurais que notre pays peut, s'il le veut, faire peser sur cette situation. Et alors, je citerai quelques détails qui sont bouleversants pour nous montrer notre responsabilité dans cette situation. Nous avons vu des centaines de témoins et des fosses, comme celles que vous avez vues, il y en a pratiquement dans presque tous les villages. Et une femme est venue témoigner en nous disant « j'avais 3 fils, 4 fils ». Et pour mettre ces enfants en sécurité, je les ai confiés un soir, mon mari est allé les confier un soir à un camion militaire qui faisait une rafle. Et en réalité, ses trois fils ont disparu. Et il me restait un quatrième fils. Le lendemain matin, je suis allé voir le bourgmestre. Et le bourgmestre m'a dit, ce fils va rester là. Et je ne l'ai plus revu. Il a été conduit quelques jours après par des militaires dans la forêt. Et je n'ai plus revu mes quatre fils. Et c'est cette femme qui nous a indiqué la fosse où étaient enterrés ses enfants dans la maison du bourgmestre. Ce que nous avons découvert aussi, et c'est à l'image de la Yougoslavie, toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. Et un prêtre me disait, dans un camp de réfugiés, de personnes déplacées, où il y avait 350 000 réfugiés qui étaient là, il m'a dit, vous ne pouvez pas savoir la souffrance de ces populations, ça va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. Et notre gouvernement, en pesant sur les autorités du pays, qu'elles assistent militairement et financièrement, peuvent très rapidement. En Yougoslavie, en Somalie, c'est un peu différent. C'est une situation qui nous échappe. Mais là, on peut faire beaucoup. Nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Commission européenne et du monde occidental.
C'était Jean Carbonard dans le journal de 20h de France 2 le 28 janvier 1993, donc quelques mois avant le génocide des Tutsis, le début du génocide. Antoine Gros, votre grand-père Jean Carbonard rentrait d'une mission internationale d'enquête donc menée au Rwanda par plusieurs ONG. On sent son émotion forte dans cet extrait qui est resté célèbre.
Oui, c'est un homme qui n'a jamais baissé les bras face à l'injustice et qui toute sa vie, jusqu'à sa mort, s'est battu et il s'est jamais arrêté. Il n'y avait aucun moment de pause, en fait, dans sa lutte. C'était toujours faire des projets, continuer. Ses amis sur sa fin de vie lui disaient « Mais Jean, arrête-toi, tu as fait ta part, maintenant repose-toi. » Mais il n'arrivait pas en fait, il continuait à vouloir développer de nouvelles choses. Donc c'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté en fait, qui a toujours, qui s'est toujours battu.
Il a eu notamment un rôle important après le génocide, puisqu'il est allé vivre à Kigali pendant quelques années, et il a fait un énorme travail de reconstruction de logements pour les veuves, parce que le pays était complètement détruit à plat, et il s'est beaucoup bagarré, il s'est beaucoup engagé pour monter une équipe et construire des milliers de logements pour des veuves qui étaient en déshérence, enfin.
Il était président de l'association Survie. Quel était le rôle de cette association, Antoine Gros?
C'est une association qui lutte contre les mécanismes de la France-Afrique. Donc voilà, la domination de la France en Afrique via le maintien d'éventuels dictateurs au pouvoir, via des accords commerciaux à l'avantage de la France.
Votre grand-père Jean Carbonard est donc décédé en 2009. Peut-être un mot sur votre grand-mère qui est toujours en vie, Marguerite, qui a également joué un rôle important dans son combat contre toutes les formes de discrimination et notamment au Rwanda.
Elle l'a toujours soutenue, elle était toujours à ses côtés. Et je pense que sans elle, il aurait peut-être pas fait tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a aussi assuré une stabilité dans la vie de famille, qui a porté beaucoup d'amour dans le foyer. Et vraiment, elle a autant participé que lui, on va dire. Mais comme souvent, les femmes, elles restent un peu dans l'ombre, quoi.
Cet événement de ce week-end, Christian Bussa, donc commémoration pour l'amitié franco-rwandaise, donc ce samedi et ce dimanche, c'était l'occasion de rendre hommage à Jean Carbonard.
Oui, notamment. C'est un des objectifs de, de rendre hommage, de faire plus connaître Jean et Marguerite, qui sont finalement assez peu connus. C'est étonnant comme Jean est très connu au Rwanda. J'ai une anecdote, j'ai été invité pendant mon voyage là-bas, j'ai été invité par l'ambassadeur de France à une réception, et on est arrivé un peu tôt parce qu'il fallait prendre le taxi, on ne connaît pas Kigali, on s'est dit on ne va pas arriver en retard, donc on est arrivé les premiers, et personne n'était là encore, et puis au bout de 5 minutes, il y a une petite dame qui est arrivée, qui était invitée aussi, donc on s'est présenté, puisqu'on était juste tous les trois, et on s'est présenté, elle était députée de l'Est du pays, députée rwandaise, et quand je me suis présenté comme maire de Diolfi, on ne lui a pas dit grand-chose, et quand j'ai parlé de Jean Carmona, j'ai vu qu'il y avait une émotion qui pointait dans son regard, elle connaissait parfaitement l'histoire de Jean et Marguerite au Rwanda. J'avais amené sur mon téléphone, j'avais pris une photo de la stèle qui est à Diolfi, sur la place Soubirankraft, de la stèle à la mémoire du génocide et en souvenir de Jean Carbona. Et elle était vraiment très émue. Ils sont beaucoup plus connus, me semble-t-il, au Rwanda qu'en France et à Diolfi, où évidemment, toute une partie de la population les connaissent, les historiques qui ont accompagné son histoire après le génocide. Mais il y a aussi toute une partie de la population diolfitoise qui ne connaît pas cette histoire. Et donc, c'est un des objectifs de ce week-end, de faire connaître. Il y en a d'autres. Hein. Je trouve que en allant là-bas, en comprenant ce qui s'était passé, en écoutant la souffrance et la douleur de ces Rwandais, j'ai eu l'impression de prendre un serment muet, de faire connaître ce qui s'est passé, et donc j'ai envie inlassablement de prendre de l'énergie pour faire connaître ce qui s'est passé, pour faire comprendre. Un génocide, c'est très particulier, c'est pas une guerre, c'est pas une guerre civile, c'est vraiment la volonté d'un groupe de population de supprimer un autre groupe. Pour des raisons liées à prise de pouvoir, hein, c'est malheureusement ça le moteur, hein, mais c'est vraiment une organisation, c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est préparé. Jean Carbona, en 93, quand il est allé là-bas, il s'est rendu compte que ça avait déjà commencé. Il y avait déjà des prémices, et tout ça était, voilà, il y a eu une organisation. On peut mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé avec les nazis et les juifs avec Hitler. C'est vraiment une préparation, une opération préparée pour détruire une partie de la population.
Et c'est ce qui sera notamment montré expliqué lors de cet événement ce week-end et des conférences historiques. Enfin, il y a plusieurs invités historiens qui seront là, et notamment Vincent Duclerc, donc historien de renom qui a été à la tête d'une commission sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, qui donnera une conférence à 16h samedi avec l'historien Joseph Nsengimana. Pour mieux comprendre cette histoire, c'est important d'écouter ce qu'on va dire ces personnes qui ont travaillé.
Bien sûr, Vincent Duclerc et Joseph Nsengimana ont travaillé dans une commission de recherche dans les archives françaises pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité. C'était au moment de la cohabitation entre le président Mitterrand et le premier ministre Balladur. Et il y a eu des jeux à l'intérieur du pouvoir qui ont fait que la France a eu un rôle responsabilité. La conclusion du rapport Duclerc, c'est la responsabilité lourde et accablante de la France. C'est important qu'on se rende compte de cette responsabilité. Cette commission a vraiment fait un gros travail sur les archives. Hein. J'ai l'impression que c'est sur les archives, sur les échanges, sur les échanges de messages, les petits mots de Mitterrand dans la marge des rapports. Il y a vraiment eu un gros travail pour comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Et donc, ils viennent tous les deux pour expliquer ça, et ça va être tout à fait passionnant. Et puis, il y a une deuxième conférence à 18h qui est plus sur la construction d'une nouvelle relation entre la France et le Rwanda, puisque pendant 30 ans, il y a 29 ans, il n'y a plus eu d'ambassadeur, que le rapport Duclert a permis au président Macron de retourner à Kigali et de remettre un petit peu les choses à leur place. Et donc, il y a un ambassadeur de France de nouveau à Kigali depuis quelques mois.
Il sera présent.
Et il sera présent.
À Diolfi.
Voilà. On a la chance d'avoir les deux ambassadeurs de France à Kigali et du Rwanda à Paris. Et puis, on a en dernière minute la présence d'Alain Gauthier. Et Alain Gauthier est quelqu'un de tout à fait passionnant aussi. Et il participera à cette conférence. C'est un monsieur qui, avec sa femme qui est rwandaise, Daphrose, se bagarre pour que les génocidaires qui vivent en France soient jugés. Il y en a des dizaines, peut-être même des centaines, mais des dizaines de personnes qui ont été à l'origine de ce génocide, qui vivent en France, qui vivent en Belgique, qui vivent plus ou moins cachés, mais pas tellement cachés. Enfin, en tout cas, il y en a un certain nombre qu'on connaît. Son engagement, c'est d'arriver à ce que la justice fasse son travail. C'est très long, surtout qu'il n'y a pas eu pendant très longtemps de volonté politique de le faire. Et donc, il sera là pour nous expliquer un petit peu son combat.
Il y aura également la présence de l'association Ibuka France qui travaille notamment sur ces questions et autour des victimes du génocide. C'est une association incontournable quand on parle du Rwanda en France.
Oui, tout à fait. Ibuka, qui veut dire souviens-toi, et qui est l'association des rescapés du génocide, et qui co-organise avec la mairie cet événement. On a travaillé avec Agnès Gaigi, qui est la présidente de Ibuka Rhône-Alpes, et on a la chance d'avoir le président de Ibuka France, qui sera là aussi pour évoquer ces combats.
Je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter le musicien rwandais contemporain Ben Kariyanga. Donc c'est un musicien qui soutient activement la fondation Ibuka, justement, qui regroupe les rescapés du génocide du Rwanda. On écoute le titre Isekere, tiré de l'album du même nom, sorti en 2016.
Isekere wowe mukobwa mwiza, itetere mwiza wabuze intenge, irorere nyiranduru nziza mama, isekere nyiraseko nziza, nakurabutswe mu muhanda, umutima uratera we. Maze mbigiri banga nongera kukurota Isekere wowe mukobwa mwiza itetere mwiza wabuze intenge irorere nyiranduru nziza mama Isekere nyiraseko nziza Nje naragukunze maze birandenga nifuje kugutumira ambwira yuko ukunda undiyo Isekere wowe mukobwa mwiza itetere mwiza wabuze intenge Nyiranduru nziza mama Isekere nyiraseko nziza
yagiza imana yaragutatse we zakurata igihe cyose ubwo bwose utari uwanjye sekere umwe mukobwa mwiza itetere mwiza wabuze imenge ihorere nyirandoro nziza ma isekere nyiraseko nziza
bien à l'écoute de Radiola sur le 106.6 FM et la web radio. Nous parlons ce matin du Rwanda sur Radiola autour de cet événement organisé à Diolfi le samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre, donc ce week-end, autour d'une part de la mémoire autour du génocide avec les interventions d'historiens et puis des ambassadeurs de France au Rwanda et du Rwanda en France, et d'autre part de la figure notamment de Jean Carbonard, donc diolfitois, qui a alerté sur le génocide avant qu'il ne se passe. Antoine Gros, Jean Carbonard, c'était votre grand-père, vous en avez parlé tout à l'heure. Peut-être vous vouliez ajouter un mot autour de son message, en fait, qui était de lutter contre toutes les formes de discrimination au-delà de ce qui s'est passé au Rwanda. Ça a été le combat de sa vie.
Oui, effectivement. Et en fait, je pense aussi que voilà, ce génocide, il y a eu une organisation politique, mais c'est aussi les petites violences individuelles qui sont devenues une grande violence collective. Et en fait, moi, j'invite les auditeurs à s'interroger sur leurs petites violences ordinaires, en fait, celles qu'ils adressent peut-être inconsciemment contre les gens qui sont différents d'eux pour n'importe quelle raison. Et en fait, à partir de là, comment on arrive à lutter contre sa petite violence personnelle et comment on accepte les différences, comment on apprend à mieux vivre ensemble, en fait. Parce que pour moi, c'est ça qui est important.
Mmh. C'était le message de votre grand-père. Vous êtes allé au Rwanda, Antoine?
Oui, j'ai eu la chance d'y aller en 2015 avec ma grand-mère, ma sœur et ma cousine. On a été très bien reçus par Joséphine et Ezekias. Donc on s'est un peu promené dans le pays pendant 15 jours. Et surtout, je me souviens du mémorial de Guy Sozi, où il y a vraiment une phrase qui m'a marqué. Donc c'est les mots de l'écrivaine rwandaise Yolande Mukagasana, qui dit qu'il n'y aura pas d'humanité sans pardon, il n'y aura pas de pardon sans justice, et que la justice sera impossible sans humanité. Donc c'est une boucle, en fait. Mmh. Qui relie ces trois concepts. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est un pays qui est très dynamique, qui est plein d'espoir. J'ai relevé beaucoup de choses intéressantes lors de mon voyage, en discutant avec les gens. Donc déjà, par exemple, il y a 90% de la population qui est couverte par l'assurance maladie. Donc c'est quand même remarquable, à mon sens. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a une conscience écologique qui est assez forte, que Kigali, c'est une ville qui est très propre. Depuis 2006, ils ont interdit les sacs en plastique. Donc c'est quand même assez avant-gardiste.
C'est bien de le souligner, dans le sens où c'est vrai que quand on parle du Rwanda en France, on entend beaucoup parler du génocide, qui est, vous le disiez juste avant, Christian Bussa, Antoine Gros, c'est très important d'en parler, mais parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui sur un volet plus positif, c'est une bonne chose aussi.
C'est étonnant ce qu'ils sont arrivés à reconstruire en 30 ans. Le pays était complètement anéanti. Mmh. Et ils sont arrivés à reconstruire en étant la moitié rescapés et l'autre moitié assassins. Enfin, c'est quand même incroyable d'être arrivé à reconstruire un pays tous ensemble. Alors bon, il y a encore quelques camps à l'extérieur du Rwanda qui sont notamment à l'est du Congo. Voilà, il y a des choses à dire. Tout n'est pas réglé. Mais à l'intérieur, il y a eu un travail magnifique de fait, de reconstruction. Et on voit un pays qui fonctionne avec des écoles, des instituteurs, des professeurs qui sont payés, des hôpitaux qui travaillent, avec des gens qui circulent, qui font leur boulot. C'est des jeunes qui sont pleins d'espoir, qui sont tournés vers l'avenir et qui construisent leur pays.
Oui, la question du pardon, elle est centrale en fait, parce que comment est-ce qu'on peut arriver à vivre avec des voisins qui ont assassiné toute sa famille? Alors à l'époque, il y a eu les tribunaux populaires pour juger, parce que sinon c'était impossible par les voies traditionnelles. Enfin, ça aurait pris trop de temps pour juger tout le monde. Et ça a permis d'avancer sur la question du pardon.
Mmh. Et aujourd'hui, c'est un pays, le Rwanda, qui a une stabilité politique. C'est un pays stable politiquement, il y a des institutions, on peut dire.
Oui, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des élections, il y a des mairies, des districts, il y a tout un...
Il y a aussi, il faut souligner qu'il y a 60% de femmes au Parlement, donc c'est pas rien, et qu'il y a plus de la moitié des ministres qui sont des femmes. Et aussi que là, on voit que c'est toute une nouvelle génération qui arrive au poste des responsabilités. Qu'il y a la moitié des ministres qui ont en moyenne 35 ans, donc ils amènent une autre manière de réfléchir. C'est des dirigeants qui sont... C'est une génération qui est mondialisée et qui a vraiment cette volonté de vivre ensemble malgré toutes les crises qui ont été vécues.
Mmh. Rendre compte de ce Rwanda d'aujourd'hui, au-delà de celui d'hier, c'est aussi l'ambition de l'événement de ce week-end à Dulphy, Christian Bussa.
Oui, tout à fait. On a souhaité, Ibuka et la mairie, que cet événement ne tourne pas que autour de l'histoire et des drames du génocide, mais qu'on regarde aussi la vie et que donc il y aura un spectacle de danse rwandaise le soir qui va être, à mon avis, très très chaleureux.
Samedi soir à 20h30.
Samedi soir à 20h30 à la halle. On va enlever quelques rangées de chaises devant parce que je pense qu'on va pouvoir danser tous ensemble à la vie. Et puis l'après-midi, le samedi après-midi, il y a un stage de danse rwandaise aussi organisé au gymnase, dans la salle du gymnase en haut, voilà, pour les amateurs et les amatrices de danse. Et puis le dimanche, on a un programme autour du recueillement, autour de la, voilà, avec une invitation, avec une réception officielle à la mairie de tous ces invités renommés. Et puis on va un petit moment de recueillement devant la stèle en mémoire du génocide et en souvenir de Jean Carbonard.
Donc, place
Soubeyran-Kraft. Mm-hmm. Et puis, pour faire le lien avec ce qui s'est passé à Dulphy, un moment aussi devant le mémorial à la résistance civile du parc de la Baume. Mm-hmm. Voilà.
Et en parlant de danse, je voudrais préciser que, justement, les Inorés, c'est des guerriers danseurs. Donc, en Inorés à Dulphy, c'est les guerriers danseurs de Dulphy. Et je tenais à remercier tous les Dulphitois qui se sont engagés auprès du Rwanda, dont Anne-Marie Truc, la présidente de l'association Inorés à Dulphy, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, et aussi Florence Fallot, la présidente de Kigali, en fait, qui œuvre beaucoup pour faire vivre en fait cette amitié entre Dulphy et le Rwanda. Et tous les autres Dulphitois qui se sentent concernés et qui font vivre cette amitié. Donc merci à vous.
Kigali, en fait, qu'on a reçu à ce micro il y a quelques mois. L'interview est en écoute libre sur le site de Radiola, www.radiola.media. Cet événement autour de la France et du Rwanda à Dulphy et bien sûr Christian Bussa, ouvert à toutes et à tous, est gratuit.
Bien entendu, bien entendu.
Alors, hormis le stage de danse.
Hormis le stage de danse, et puis on demandera peut-être une petite participation pour le spectacle de danse, mais ce sera libre et ouvert. Pas de problème. Venez nombreux.
Venez nombreuses et nombreux.
Ça va être joyeux.
Ça va être joyeux, ça va être un moment d'histoire également. C'est donc célébration de l'amitié franco-rwandaise. C'est donc ce week-end, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre à Dieulfi. Merci beaucoup Christian Bussard et Antoine Gros d'être venus en parler au micro de Radio-là.
Merci.
Merci.
Bah, je vous propose de se quitter avec Gaël Faye. Si on parle du Rwanda en France, c'est difficile de passer à côté de ce chanteur. On écoute le titre Solstice. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Radio La.
Jacqueline losing money, and he throw the cards away. Now Jacqueline, he told Billy Lyon, Billy, I'm sure gonna take your life. Now Jacqueline, Lord and Billy Lyon, they was gambling a day one day.
Knowledge of the infinite, even if you got it just a little bit. Soon as you feel the ground start shaking, all your sleeping dogs start waking. Baby cries through the concrete, genocide, lost a breath of life under God's feet. Genocide of the angels, even murdered instruments, trumpets, banjos. But I still hear singing, mixed between the crying, sirens ringing. Bury my whole tribe, I'm crying, thinking. Rescue us from Zion, God ain't blinking. Bodies held in pile on, clock ain't ticking. One face had a smile on, plot just thicken. Courage of a lion, nine life kitten. Wandering through iron bars, once
that's
prison.
Les soumis, les idiots, les vulgaires, à la tristesse de l'Éden, aux clartés de l'enfer. Il faut goûter son sang, car le sang est esprit. On suicide un silence en accouchant d'un cri. J'habite un désastre sous la colère des dieux, où le monde doit s'éteindre pour qu'on ouvre les yeux. Et le vin à la bouche, et le cœur sur le pieu, on fera vœu de renaître de quelques cendres de feu. J'effeuille les corolles de ce qu'on veut de la vie. Un peu de vent sur la peau, les caresses d'une fille, ou s'envoler tout là-haut pour gratter l'équinoxe. Être un arbre écrivain en s'écorchant l'écorce. Mais tout ça, c'est cassé en un éclair coincé sous une chape de béton armée. Mes enfants, le solstice c'est dans longtemps. Mais longtemps c'est maintenant.
Radio-là.
Radio-là.